présenté par Eve Barta.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Ce soir, on parle du film Las Vegas Parano. Et Anthony est avec nous ce soir dans l'Amphi, pardon. Et il reçoit aujourd'hui deux membres de Sympho Campus, Lucas Motet, trompettiste et président de l'asso, et Théo Mariotte, tromboniste, soliste et membre du conseil d'administration. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Avant tout, évidemment, on écoute Starburster de Fontaine D.C.
Aujourd'hui, on se retrouve dans l'amphi pour une interview récapitulative des événements organisés au cours de l'année par l'association Sympho Campus, association étudiante. Ce soir, on se retrouve avec Lucas Motet, président de l'association et trompettiste, et Théo Mariotte, membre du conseil d'administration et tromboniste. Bonjour Théo.
Bonjour.
Alors, nous allons commencer par la présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre parcours ?
Ouais, moi je m'appelle Lucas Motet, j'ai 24 ans, je suis doctorant au LOUM, au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, et je fais partie de l'orchestre depuis 4 ans maintenant, et je suis président depuis 3 ans. Voilà, je joue de la trompette depuis mes 15 ans, et j'adore jouer en orchestre. avec des gens.
Moi, c'est Théo, donc je suis, j'ai 29 ans, je suis maintenant enseignant-chercheur à l'université en informatique. Et donc je fais du trombone depuis longtemps, depuis à peu près mes 8 ans, je crois. Et j'ai, oui, et j'ai rejoint l'orchestre en 2016, je crois.
Il y a plus longtemps.
Et avant que la chef d'orchestre actuelle n'arrive même. Et donc je suis l'aventure Symfo Campus depuis 10 ans maintenant. Donc.
Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ?
Alors, tu...
ouais, bah. On est du coup, on existe depuis 2017 sous ce format-là, plus ou moins, avec la chef Cécile Derosier. On est donc une association étudiante, donc la majorité des membres, c'est des étudiants ou alors des personnels de l'université. On a aussi quelques personnes qui sont plus à l'université ou qui n'ont jamais été dans cette université-là, mais en fait, on accueille tout le monde, parce que parfois, on a besoin de certains instruments, donc on est très ouvert d'esprit. Et donc cette association, elle a deux grands objectifs. Le premier, c'est faire de la musique ensemble, de réunir les étudiants et les étudiantes de l'Université du Mans pour continuer à avoir une pratique musicale, même s'ils ne sont pas inscrits au conservatoire, même s'ils ne se réinscrivent pas. Et aussi de faire rencontrer les gens et de créer du lien social entre les membres de l'orchestre.
Bah, c'était bien, je
crois. Et si on fait des concerts.
Ouais, voilà, après on... On essaie de faire 4 à 5 concerts par an à peu près, chaque année, répartis de décembre à mai.
Mais quelles sont vos tâches principales dans Symfo Campus ?
Alors moi, ma tâche principale, c'est de venir tous les mardis soirs à la répétition et de 20h à 22h.
Souffler dans les tuyaux, on fait très bien en plus.
Oui, souffler dans les tuyaux. Et après, j'ai pas beaucoup de responsabilités au sein de l'association, à part... Bah, répondre quand il y a des sondages organisationnels, quoi, et donner mon avis quand j'en ai un. J'ai beaucoup moins de responsabilités que monsieur le président.
Oh là, j'ai un sac à dos de responsabilités, je peux en donner un peu. Moi, ma tâche de président, c'est organiser organiser les répétitions. C'est des répétitions hebdomadaires, oh là là. Donc, c'est assurer la bonne tenue de ces répétitions-là, que tout le monde sache où se trouver, d'organiser les concerts, donc tout ce qui est matériel, communication, etc. Et aussi le côté sous, donc demander les subventions en temps et en heure, faire un budget, rémunérer notre chef d'orchestre. Alors je dis moi, mais en fait c'est pas trop moi, en fait c'est tout le bureau et le CA de l'orchestre. Donc dans le CA on est une dizaine de personnes. Et dans le bureau, on est 6 personnes. Donc, chacune de ces tâches est répartie parmi les membres de ce CA.
Alors, dans cette association, on regroupe plus de 60 musiciens. Est-ce que ce nombre a grandi au fil des années ?
quand je suis arrivé, on était 15, je pense. Donc, on peut dire que ça a augmenté. En fait, surtout quand l'association a embauché Cécile, qui est notre chef actuel. En 2017, c'est là qu'on a commencé à être un peu plus ambitieux dans les programmes et dans la difficulté aussi des pièces, donc ça a attiré pas mal de monde. Et là, je pense que cette année, on était peut-être au maximum d'adhérents et d'adhérentes depuis les dernières années. Donc on verra pour la rentrée prochaine. Mais...
Ouais, depuis, je pense, 3 ou 4 ans, on stagne un peu à 55-60, quoi. Donc on doit toujours un peu jongler entre les étudiants et les étudiantes qui sont toujours là, puis celles et ceux qui sont alternants, donc il y a toujours un peu ce jeu-là. On verra à la rentrée, donc comme on est un orchestre universitaire, il y a un gros turnover des membres, parce que les gens partent, et c'est la vie. Et on espère qu'on récupérera, enfin on retrouvera notre effectif de cette année, mais j'ai pas trop de doutes, j'y crois fort.
Okay. Mais combien il y a de répétitions par mois, mardi?
Ouais, bah du coup, par mois, le nombre de semaines qu'il y a dans le mois.
Ok, ouais. Donc 4 fois, donc que le mardi.
Moi, les vacances, et plus on a un week-end de répétition début d'année en octobre. Donc là, on travaille les deux jours de week-end, donc tout le programme. Et depuis cette année, on a fait un truc sympa, c'est de travailler avec d'autres personnes que notre chef d'orchestre. Pour organiser des partiels, donc avec chaque famille d'instruments est séparée dans les salles et chacun travaille le programme de sa famille pour travailler vraiment les détails et travailler aussi un son de pupitre. Donc déjà se connaître musicalement avec ses camarades, sachant que c'est au début d'année, donc c'est des nouvelles personnes, et de se connaître aussi humainement, connaître les prénoms et tout.
D'accord, donc vous êtes donc dans tout ce groupe de 60 musiciens, vous êtes divisé entre dans différents groupes.
Divisé en...
Parce que 60 musiciens, ça en fait quand même à comme organisation tout par semaine. Donc est-ce que vous êtes tous ensemble ou des fois il y a les trompettistes avec les trompettistes, les...
La majorité du temps on est en orchestre complet. Et puis ça arrive que parfois on répète en ce qu'on appelle des partiels, donc chaque famille séparée. Mais sinon la majorité du temps on est ensemble.
Ouais, c'est les catégories de l'orchestre, quoi, les cordes, les bois, les vents, enfin les vents qui sont divisés en bois et en cuivre. Et quand on travaille en séparé, c'est qu'on travaille avec un spécialiste d'une grande catégorie comme ça.
D'accord.
Les percus.
Boom-chak.
Justement, avec 60 musiciens, il doit y avoir beaucoup d'instruments. Est-ce qu'ils sont fournis ou l'étudiant doit en avoir un?
Deux cas de figure. Non, quand c'est... rien n'est fourni, sauf certaines percussions. Sinon, tous les instruments, toutes les cordes, les vents, c'est des instruments personnels. On ne peut pas, nous, acheter des instruments. Et si on devait acheter des instruments, ça coûte beaucoup d'argent. Donc on doit acheter forcément des instruments de bonne qualité. Il y a un projet d'acheter un instrument l'an prochain qui sera une flûte piccolo. Donc c'est pas très grand, mais c'est pratique et tout le monde n'en a pas. Enfin, du coup, ce sont les flûtistes qui jouent de cet instrument. Sinon, on commence à avoir une collection d'instruments de percussion, parce que ça, c'est un peu la clé d'un orchestre. Quand on répète, en fait, on est au conservatoire, donc on peut utiliser le matériel du conservatoire. Donc les percussions et aussi certaines contrebasses, parce que c'est super encombrant. Et donc là, on a pour le moment, on a 4 timbales, un xylophone, qui est super, et des petits machins, enfin des cymbales frappées dans le tambourin, etc. Donc là, l'objectif de l'an prochain, c'est une grosse caisse symphonique, et on sera heureux si on l'a.
Avec 60 musiciens, donc beaucoup d'instruments, j'imagine que vous n'avez pas tous. Comment vous vous adaptez s'il est cassé, si l'étudiant l'a oublié chez lui?
Bon, s'il l'a oublié, c'est la honte, mais...
Soit il fait l'aller-retour pour aller le chercher, soit il revient la semaine d'après. Enfin, on n'a pas d'instrument en stock, quoi. Donc, après, pour les... tout est payé avec le budget de l'association, donc s'il y a de la casse,
s'il y a
de la casse, un remplacement dans les percussions. Quoi.
S'il y a de la casse, on est assuré.
On a l'assurance.
Même les instruments de l'orchestre. Et après, il y a une bonne question, c'est... il y a des instruments qu'on n'a pas dans l'orchestre, parce qu'ils sont compliqués à trouver, notamment un super instrument qui s'appelle le basson. Normalement, dans un orchestre symphonique, il en faut deux, nous on en a zéro. Et c'est un instrument qui est essentiel parce qu'il a des parties solo, et pour assurer l'harmonie du morceau qu'on doit jouer, s'il n'y a pas de basson, c'est un peu gênant. Donc là, ce qu'on fait comme astuce, c'est qu'on donne ces parties de basson à d'autres instruments qui ont à peu près les mêmes tessitures, donc à peu près la même voix, les mêmes hauteurs. Et donc là, on donne ça à une clarinette basse et à un saxophone baryton. Donc là, on doit faire des transpos, changer, parce que ça ne s'écrit pas exactement pareil, donc il faut un peu adapter les choses. Et voilà, c'est un peu le seul truc qu'on n'a pas.
Qu'on remplace.
Ouais, qu'on remplace, parce que sinon, il manque des trucs. Donc on espère qu'on aura un basson l'an prochain.
Alors vous jouez dans de nombreux lieux différents, FSN Universitaire, l'abbaye de Lépau, la salle Raymond de Vaux à Monet. Pourquoi ne pas s'ancrer dans un seul et même lieu lors de vos présentations?
On a des lieux où on revient tous les ans. Donc par exemple, à Ève, on fait au moins un concert par an, normalement. L'abbaye de Lépau, on est convié depuis plusieurs années aussi, dans le cadre du festival de Lépau, depuis pas mal d'années. Donc ça, c'est chaque année. Après, on a des fois des partenariats ou des rencontres avec d'autres orchestres, donc c'est ce qui nous fait bouger. Et c'est aussi l'occasion de croiser d'autres personnes et de faire connaître l'orchestre, de jouer ailleurs. Je voulais compléter.
Ouais, puis il y a un projet qu'on a fait pendant 3 ans avec Le Plongeoir, la Cité du Cirque. Donc c'était le Cirque Symphonique. On a commencé en 2024-3. 26, oulala. 2023. et donc là, c'était un projet qui mêle cirque et musique, donc avec les élèves du Plongeoir et l'orchestre, enfin avec Symfo Campus. Donc on a monté vraiment des spectacles en chambre et c'était vraiment sympa.
D'accord.
Ouais.
Alors, lors de la saison musicale 2025-2026, vous avez organisé 5 événements. Est-ce que vous pouvez nous les présenter en quelques mots?
Ouais. On fait un chacun. Alors, on a fait un premier concert, c'était le 5 décembre à Eve. On a donné notre premier concert. Alors ça, c'était dans un cadre, une sorte de festival avec notre association universitaire qui s'appelle La Mandibule, qui gère notamment le Big Band universitaire. Donc l'idée, c'est peut-être de faire le jeudi le Big Band et vendredi Symfo Campus, donc à Eve, donc une espèce de festival des ensembles universitaires. Et c'était chic.
Après, il y a eu le 31 janvier, toujours à Eve. Et là, c'était un peu particulier, puisque c'était une masterclass d'un compositeur qui s'appelle Jean-Marc Hillet, qui avait écrit cette année pour l'orchestre et pour vibraphoniste, donc un joueur de vibraphone. Donc on a créé un concerto qu'il a composé lors de ce concert.
Et il a composé spécialement pour nous. Parce qu'on avait déjà travaillé avec lui l'an passé, et en voyant l'orchestre et ce qu'il était capable de faire, il a écrit une pièce pour le soliste qui était en fait son élève quand il était petit, et nous. Donc vraiment sympa. Après, on a eu la Cité du Cirque. Donc j'en ai un peu lu avant, et c'était on a beaucoup joué, en fait on a joué sur un week-end, on a joué vendredi, samedi, ce spectacle cirque symphonique avec les élèves du Plongeoir, et le dimanche on a participé au Bingo Symphonique. Donc c'était un spectacle un peu incongru pour présenter le programme de Le Mans fait son cirque, qui est en ce moment, enfin donc achevé depuis hier, avant-hier. Donc ouais, c'était intense, ouais, c'était bien.
Donc après, on a fait le 11 avril à Monet, donc là on s'est expatrié en Touraine, pour jouer du coup un concert en échange avec une harmonie locale de l'Ouest Tourangeau. Voilà. Puis
l'Est Tourangeau. Et Théo Mariotte a joué le concerto de Grandal en entier pour trombone. Et enfin, on a fini il y a une semaine, 10 jours. À l'abbaye de l'Épau, dans le cadre du festival de l'Épau. Donc c'était une journée, enfin une fin de journée plutôt, des pratiques amateurs de la Sarthe. Donc on a joué avec le Chœur de Babel, et on a partagé la scène avec le Chœur de Babel et l'Orchestre d'Harmonie de la Sarthe.
Alors parmi tous ces événements, j'imagine qu'il devait y avoir des objectifs. Est-ce que vous les avez accomplis, ces objectifs, et quels sont-ils?
Ouais, je pense.
Bon, on avait une liste de morceaux à monter à la fin de l'année. On les a montés, on les a joués. Ouais. Donc, sur ce plan-là, on a atteint les objectifs. Après, c'est au public de dire si ça leur a plu.
Oui.
Mais dans le ressenti.
Moi, je pense. Et puis, on a passé du bon temps. Alors, c'est chouette, je pense. Ouais. Je pense que ça va. Ouais.
Et selon les événements, est-ce que vous avez un objectif particulier ou c'est tout le même objectif pour tous les événements?
Ça dépend un peu, je pense.
Moi, déjà, à chaque concert, on joue pas forcément le même répertoire, donc les mêmes morceaux. Donc, dans ce sens-là, ça varie un peu. Après, il y a aussi la contrainte de devoir jouer les morceaux avec les absences de certains et certaines. Donc, les objectifs sont un peu fluctuants, on va dire, en fonction des effectifs. Quoi.
Ok, et est-ce que il y a eu des imprévus lors de ces événements? Et justement, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer la saison prochaine?
Vérifier les pieds de piano.
Ouais.
Oui, non, on a un pianiste qui a perdu le piano, qui est tombé par terre pendant qu'il jouait, pendant un concert. Donc, ça, c'est un imprévu.
Mais il a bien réussi son solo, donc bravo à lui. Il s'est pas découragé. Après, bon, c'est un peu la foire aux imprévus, dans ce genre de... Quand on fait du spectacle vivant, voilà, il manque des trucs, oups, j'ai oublié ma partition, enfin, je sais pas, ouais, ça arrive tout le temps, faut juste savoir être un peu souple.
Et puis il y a quand même une organisation qui est un peu rodée depuis plusieurs années, ouais. Et qui fait que on arrive à régler rapidement.
C'est cadré petit à petit, quoi.
C'est ça.
Ouais.
D'accord. Donc, Symfo Campus est une association étudiante qui attire de plus en plus de jeunes depuis sa création. Comment vous faites pour les inciter à s'inscrire?
On leur demande beaucoup.
Déjà, on est sur les réseaux.
Ouais. Ah oui, on a des réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur Facebook.
Et
on a un site internet qui est hyper sympa, sur lequel on met nos infos, et il y a une newsletter, et sur lequel aussi les gens peuvent nous contacter pour notamment rejoindre l'orchestre.
Et après, on est actif dans les événements du campus, comme Campus en fête à la rentrée, où là, on va les discuter avec les personnes directement. Et aussi, à force de faire les concerts, les gens connaissent et ça marche un peu au bouche à oreille.
Ouais.
D'accord.
Et on prépare la campagne de recrutement de nouveaux instrumentistes pour la prochaine saison. Donc ça arrive lourd, je pense, dans 10 jours.
Alors pour finir, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux étudiants ?
Si vous aimez faire de la musique, venez.
Et puis, dans une ambiance chic et décontractée, où franchement, on rigole bien.
Alors, merci Lucas et Théo d'être venus aujourd'hui. Si vous êtes étudiant et que vous êtes intéressé, le recrutement pour la saison musicale 2026-2027 aura lieu en septembre 2026. Pour plus d'indications, allez sur le site internet de Symphocampus, tout en minuscule, symphocampus-le-mans.fr.
Merci Lucas, merci Théo d'être venu dans l'amphi. Merci à toi aussi Anthony pour l'interview. À bientôt. On fait une pause musicale, on va écouter Beat Album de Blur.
God, now what you've done, it's beautiful. best thing.
Dans l'amphi sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. On vient d'écouter PJ Harvey avec Tom York, le titre Beautiful Feeling. Et je l'ai dit en introduction, aujourd'hui je parle du film Las Vegas Parano, un film réalisé par Terry Gilliam et sorti en 1998. Il s'agit d'une adaptation du livre du même nom écrit par Hunter Thompson, une figure emblématique du journalisme dit Gonzo, un style d'écriture qui mélange reportage, subjectivité et satire. Dès les premières minutes, Las Vegas Parano se distingue par son originalité. Le film suit deux personnages qui traversent le désert du Nevada en direction de Las Vegas. Officiellement, leur voyage a un objectif professionnel, mais très vite, le spectateur comprend que ce déplacement va devenir une expérience totalement hors du commun. Ce qui frappe d'abord dans ce film, c'est son atmosphère. Las Vegas y apparaît comme une ville extravagante, presque irréelle, les hôtels gigantesques, les casinos illuminés, les spectacles permanents et le luxe omniprésent créent un décor qui semble déjà excessif en temps normal. Mais à travers le regard des personnages, cette ville devient encore plus étrange, déformée et parfois inquiétante. Le réalisateur utilise de nombreux procédés visuels pour transmettre cette sensation. Les couleurs sont vives, les décors parfois grotesques, les mouvements de caméra sont surprenants et certains effets spéciaux donnent l'impression que la réalité elle-même est instable. Le spectateur est plongé dans un univers où il devient difficile de distinguer ce qui est réel de ce qui révèle de l'imagination ou des perceptions des personnages. L'un des grands atouts du film réside également dans son casting. Le rôle principal est interprété par Johnny Depp, qui livre une performance assez marquante. Pour préparer son rôle, il a d'ailleurs passé du temps avec Hunter S. Thompson afin de reproduire au mieux sa manière de parler, de bouger et de penser. Son interprétation est souvent considérée comme l'une des plus impressionnantes de sa carrière. À ses côtés, on retrouve Benicio del Toro, qui incarne son compagnon de voyage. Lui aussi offre une prestation remarquable. Le duo fonctionne parfaitement grâce à une énergie chaotique et imprévisible qui contribue fortement à l'ambiance du film. Mais Las Vegas Parano n'est pas seulement un film étrange ou comique. Derrière son apparence déjantée se cache une réflexion plus profonde sur l'Amérique de la fin des années 60 et du début des années 70. Cette période est marquée par de grands mouvements sociaux, notamment le mouvement hippie, les contestations contre la guerre du Vietnam et les revendications pour davantage de liberté. À travers ce récit, le film s'interroge sur ce qu'il reste de ses idéaux quelques années plus tard. Il montre une société où les rêves de changement semblent s'être dissipés. Las Vegas devient alors un symbole particulier, celui d'une Amérique tournée vers la consommation, le divertissement et les excès. Cette dimension critique est importante car elle donne au film une portée qui dépasse largement son histoire. Sous ses aspects parfois absurdes, il pose des questions sur les illusions collectives, sur la recherche du bonheur et sur les limites de la liberté individuelle. Cependant, il faut savoir que Las Vegas Parano est un film qui divise beaucoup les spectateurs. Certains le considèrent comme un chef-d'œuvre unique et fascinant, tandis que d'autres le trouvent difficile à suivre ou excessif. Cette réaction s'explique par sa construction narrative assez particulière. Le film ne cherche pas toujours à raconter une histoire classique avec un déroulement simple et linéaire. Il privilégie davantage les sensations, les expériences et les états d'esprit des personnages. C'est donc une œuvre qui demande une certaine ouverture d'esprit. Ceux qui apprécient les films originaux, les univers surréalistes ou les critiques sociales y trouveront beaucoup d'intérêt. En revanche, celles et ceux qui préféreront un récit plus traditionnel pourraient être déconcertés. La bande-son contribue également énormément à l'identité du film. On y retrouve de nombreuses chansons emblématiques des années 60 et 70 qui renforcent l'immersion dans cette époque. La musique accompagne les scènes sans jamais être anodine et participe à la création de cette atmosphère psychédélique si particulière. Sur le plan cinématographique, Las Vegas Parano est souvent étudié sa mise en scène audacieuse. Terry Gilliam ne cherche pas à présenter le monde de manière réaliste. Au contraire, il transforme constamment l'image pour faire ressentir au spectateur les émotions et les perceptions des personnages. Cette approche fait du film une expérience visuelle assez rare, même aujourd'hui. Plus de 25 ans après sa sortie, Las Vegas Parano continue d'occuper une place particulière dans la culture populaire. Il est devenu un film culte, souvent cité pour ses dialogues, son esthétique ou ses personnages mémorables. Son influence se retrouve encore dans certaines œuvres contemporaines qui explorent elles aussi des univers décalés ou hallucinatoires. Pour conclure, Las Vegas Parano, c'est un film atypique qui mélange comédie noire, satire sociale et expérience visuelle. Grâce à les réalisations inventives, aux performances remarquables de Johnny Depp ou Benicio del Toro, ainsi qu'à sa réflexion sur les rêves et les désillusions d'une époque, il reste une œuvre marquante du cinéma des années 90. Même si son style peut surprendre, il mérite d'être découvert pour son originalité et la manière unique dont il invite le spectateur à voir le monde à travers un regard totalement différent. Et donc, je vous propose d'écouter une musique qui est extraite du film. C'est Jumpin' Jack Flash des Rolling Stones. C'est la dernière musique du film, si je ne dis pas de bêtises, la musique du générique.
But I Downey. Hello, Janice. Hello, Dennis, Elvis, and all my brand new friends. I'm so glad you're all here with me. Until the very end.
La fin de cette émission, on vient juste d'écouter Tunic Song for Karen de Sonic Youth. Vous pourrez réécouter cette émission en rediffusion demain de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.
No.
présenté par Eve Bartin.